c'est étonnant, non? Bonjour à tous et à toutes. Ça y est, nous sommes en 2026. Aussi, je vous présente mes souhaits les meilleurs pour tout ce que vous aimez, ce que vous aimez, les activités que vous aimez, tout ce qui vous plaît dans la vie et qui vous rend heureux. Et je vous le souhaite de tout cœur, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que la conjoncture du pays n'est quand même pas au mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu. Le jeu, cette addiction auquel ont succombé nombre de célébrités. La première des célébrités dont je vais vous entretenir, c'est un acteur qui nous a quittés en 2006, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Darry Cole. Darry Cole était né en 1925 d'un père médecin d'origine basque, une famille relativement riche. Sa maman était une de ses maîtresses. Il ne le saura qu'à l'âge de 10 ans, quand son père est décédé, et il ne connaîtra jamais l'identité de sa mère biologique. En effet, soucieuse des convenances, la femme de son père, la femme légitime, avait simulé une grossesse pendant les 6 mois précédant la naissance de André. Car Darry Cole s'appelait André. Il s'appelait même André-Pierre Darry Cole. André est un excellent élève. Il est champion de pelote basque. Il est remarquable pianiste. Il va s'inscrire au Conservatoire de Paris. Il va passer le concours pour devenir concertiste. Et il remporte le premier prix d'harmonie et de composition. Ensuite, il va s'orienter vers le cabaret. Il devient pianiste accompagnateur. Il faut savoir qu'au sortir de la guerre, il y a 3 pianistes accompagnateurs à Paris qui sont plus célèbres que les autres. Il y en a plus que ça, bien entendu. Le premier, celui qu'on connaît tous, c'est Gainsbourg. C'est visiblement le moins bon des 3. Le deuxième, qui est excellent, va aussi faire une carrière d'acteur, c'est Louis de Funès. Et le troisième, le meilleur, c'est Darry Cole. Il va démarrer une carrière de compositeur, notamment de musique de film. On en écoute une. Cette musique est la bande originale du film Les Malpartis, d'après le livre de Jean-Baptiste Rossi. Jean-Baptiste Rossi est l'anagramme de Sébastien Japrisot. C'est le même homme en fait. Il a écrit ça, il avait 17 ans. C'est une histoire absolument magnifique d'un gamin qui est un petit peu turbulent, qui est en pension et qui va tomber amoureux d'une bonne sœur. C'est une histoire absolument sublime. Et Sébastien Japrisot avait une grande admiration de Darry Cole. Pour en finir avec Darry Cole, donc Darry Cole va faire sa carrière d'acteur en bégayant et en zozotant, ce qui est relativement extraordinaire. En fait, c'est Sacha Guitry qui va le découvrir. Et ensuite, petit à petit, il va tourner dans une foule de films plus mauvais les uns que les autres, tout simplement pour éponger ses dettes de jeu. Il s'en sortira après s'être fait interdire de casino et de tous les endroits où on pouvait jouer, grâce à une femme, hein, c'est souvent le cas, ce sera le cas pour un autre joueur dont je vais parler après, et il mettra tout ça dans un livre qui s'appelle Le Flambeur, qui est un livre très intéressant. Darry Cole était un personnage très intéressant.
C'est inouï le nombre de gens que je peux ignorer. C'est incroyable. Je connais pas tout. Ça fait de l'argent, cette pièce.
Comment ?
Cette pièce fait de l'argent.
Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas ?
Il vient, monsieur le président.
Ça vient. Oh, c'est bon pour...
Oui, j'aurais de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite, dites, je le jure.
Ça y est, c'était fatal, ça. Où qu'on aille, on est toujours traité de la même façon. Ça,
qu'est-ce
c'est...
que vous dites ?
Je dis, où qu'on... Faudra réparer ça, hein. Ça, c'est pas possible, ça. Je dis, où qu'on aille, on est traité de la même façon. T'es fou, vous prenez le métro, vous avez votre ticket ? Vous, la suspicion, comme si on était un homme à prendre le métro sans avoir de ticket. Vous descendez d'un train, est-ce que vous n'avez rien à déclarer ? Vous, la suspicion, toujours. Vous demandez la main d'une jeune fille, hein ? Alors, vous demandez sa main, vous faites un contrat, tout est en règle, parfait. Quelle est la première question qu'on vous pose ? Consentez-vous à prendre pour épouse ? C'est la suspicion, toujours. Voyez-vous, comme si on était un homme à avoir fait tous ses frais sans être virtuellement consentant. Hein ? Dites, vous n'entendez pas bien, vous. Et enfin, ici, un tribunal, où c'est l'occasion jamais de dire la vérité, eh bien, on vous demande de jurer si vous allez la dire. C'est que c'est affreux d'être toujours traité comme ça, comme un faussaire ou un menteur. Ou ça.
Est-ce que vous allez vous taire à la fin ?
Oui, monsieur, non sans un vif regret. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Là, voilà, satisfait, j'espère. Bon, là-dessus, je m'en vais.
Comment vous vous en allez ? Vous n'avez rien dit.
Comment vous...
Oui, bien parler maintenant.
Comment rester, mais vous...
Mais croyez le mot, ce que vous avez dit.
C'est vous qui m'avez dit de me taire, monsieur, il n'y a pas... tout. Enfin, je vais dire tout de même.
Le petit extrait que nous venons d'entendre vient d'une pièce de théâtre qui est devenue un film après, qui s'appelait « Assassin et voleur » de Sacha Guitry. Sacha Guitry était lui-même joueur. Il disait « Il ne faut d'excès dans nulle chose, donc ne pas jouer du tout est un excès ». Voilà, c'était l'esprit de Sacha Guitry. Donc après Darry Cole, nous allons passer à un ingénieur français dont nous connaissons tous le nom puisqu'il s'agit d'André Citroën. André Citroën était un homme très très brillant. Il affectionnait particulièrement les champs de course, mais aussi les casinos. Il y a perdu de sérieuses sommes, ce qui fait que son partenaire à l'époque, Michelin, va exploiter cela pour le ruiner.
J'aime. Oh, non, non, non. J'aime. Oh, non, non, non. J'aime les routes bleues, les routes Citroën. J'aime. Je conduis amoureux, je vais en Citroën. J'aime.
Comme Darry Cole, qui a cessé de jouer grâce à l'amour d'une femme, le chanteur dont nous allons parler maintenant, chanteur, acteur, compositeur, collectionneur, homme assez extraordinaire, cinéphile averti, il s'agit d'Eddie Mitchell. Eddie Mitchell a avoué lui-même qu'il était devenu accro au jeu, qu'il fréquentait tous les cercles de la capitale, public, privé, etc. Et il dit même dans son livre qu'ils étaient devenus ses résidences secondaires. Il y passait beaucoup de temps et il expliquait que cette passion qui lui a coûté de l'argent, qui était devenue vraiment une véritable addiction, avait affecté son union avec celle qui est devenue sa femme en 1980. Il s'est dit, après avoir mûrement réfléchi la chose, qu'il était temps de lever le pied, parce que quand on quittait sa femme à 2h de l'après-midi pour rentrer à 7h du matin le lendemain et lui raconter ses heures de poker, tu te dis que c'est pas très intéressant et que ça affecte considérablement la durée du couple. Ceci étant, le couple a traversé cela et a tenu.
Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. C'est une nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse, je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Afin d'observer les réactions sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Donc pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Elles sont parties. Dieu, je reste seul dans ta maison. J'en ai l'air, mais le dire à quoi bon? Si ton pape m'a fait perdre l'affaire, j'irai tout droit en enfer. Mais j'essaierai encore à la messe de midi le sermon du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, encore une fois, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Non, pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Ah, ne faites pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir.
On a joué à toutes les époques. Nous voici un siècle en arrière pour parler d'un musicien que j'ai déjà évoqué et que j'aime beaucoup. Il s'agit de Jacques Offenbach. Offenbach, c'est le compositeur du French Cancan. Cette chose que nous connaissons tous, qui est absolument universelle, qui a fait le tour du monde. Et Offenbach était joueur comme les cartes, disait-on à l'époque. Il jouait à beaucoup de jeux de cartes. Alors visiblement, il ne s'y est pas ruiné, même s'il y a perdu de l'argent, mais les mauvaises langues ont toujours dit, de toute façon, qu'Offenbach avait toujours vécu au-dessus de ses moyens. Ça n'a affecté en rien sa production musicale.
Ces rois remplis de vaillance pli, de vaillance pli, de vaillance, c'est les deux Ajax. Et alors, tape et je danse le double thorax. Parmi le fracas immense des cuivres de sax, ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux sages, les deux sages.
Je suis le Bouillard d'Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, grâce à mon plongeon. J'aurai l'esprit bien tranquille, n'était mon talon. Je suis le Bouillard d'Achille, le grand Myrmidon, le grand Myrmidon. premier rideau. Je suis l'époux de la reine, poux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour il aime, qu'un jour il aime, qu'un jour il aime, je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine, n'en s'issipons pas. Je suis l'époux de la reine, poux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas. Le roi Ménélas. Le roi Ménélas.
Le roi barbu qui s'avance, but qui s'avance, but qui s'avance, c'est Agamemnon. Et ce nom seul me dispense, seul me dispense, seul me dispense d'un titre plus long. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi barbu qui s'avance, but qui s'avance, but qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. C'est Agamemnon. C'est Agamemnon.
La reine.
Voici le roi de la Grèce. Il faut que le cœur s'empresse. Le
Le grand acteur français Pierre Arditi avoue avoir eu une passion assez désastreuse pour les jeux d'argent. Et il raconte une anecdote. Dans les années 70, il était marié avec Florence Giorgetti, délicieuse actrice avec qui il a eu un fils, Frédéric. Il était allé jouer. En fait, à l'époque, bon, il n'avait pas la notoriété qu'il a maintenant. Il a perdu tout l'argent qu'il avait. C'était l'argent de leurs vacances. Il devait partir en vacances le lendemain. Alors il raconte qu'il lui restait 20 francs. Il est allé dans une cabine téléphonique à la place de l'Opéra et il a contacté des proches pendant plus d'une heure pour réemprunter sous des mensonges absolument invraisemblables l'argent qu'il avait perdu au jeu. Alors c'est très curieux parce que visiblement sa version à lui, il raconte qu'il a réussi à ramasser cette somme et qu'il est parti en vacances avec son fils et Florence. Et en fait, un autre acteur, Jean-Luc Moreau, raconte dans une biographie de lui que j'ai lue, qui est absolument épatante et sur laquelle on apprend beaucoup de choses sur beaucoup de gens, lui annonce qu'il est revenu sans l'argent. Donc je ne sais pas qui croire. J'aurais plutôt tendance à croire Jean-Luc Moreau. Pierre Arditi a avoué après qu'il s'est retrouvé tout seul, il s'est regardé devant la glace et qu'il était absolument défiguré par sa propre lâcheté. Mais je pense qu'il a quand même arrangé un petit peu les choses. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça a dû être quelque chose de très douloureux pour lui, et évidemment pour son fils et son épouse.
Mais je sais où je vous ai déjà vu. Dans un super resto, vous n'avez pas toujours été ici.
Ben, les choses changent dans la vie.
Voilà, c'est un peu la dégringolade, quand même. Hein.
Bon, et ce champagne, alors, qu'est-ce que vous allez nous servir?
Alors, j'ai choisi un champagne distingué, qui a de la personnalité. Et beaucoup de finesse, justement.
Comment ça, justement?
Le contraire de vous, justement. Compte tenu de la haute opinion que vous avez de vous-même, je comprends que ce soit une révélation. Ne vous inquiétez pas, je me suis aperçu aujourd'hui que j'étais probablement dans votre cas, à ceci près tout de même, qu'aujourd'hui, justement, quelque chose a changé ma vie. Bon, c'est pour vous dire que ça peut durer, et je crains qu'en ce qui vous concerne, ça soit parti pour. Autour de cette table, certains vous trouvent dynamique, combatif, entreprenant, audacieux, et d'autres vous jugent suffisant, prétentieux, ridicule. Eh bien, les uns et les autres se trompent, puisque vous êtes tellement plus simple. Avec les mots de tous les jours, comme dans le langage châtié, on vous désigne du même nom. Vous êtes un con. D'une espèce rare, je le reconnais. Catégorie suprême, celle qui cumule le con, malgré lui, et le comte satisfait de l'être. Il y a longtemps que je n'avais pas rencontré un mélange aussi réussi. Toutes mes félicitations. Être con n'est pas vraiment gênant en soi. Non, l'ennui, c'est que les cons se sentent souvent obligés de le faire savoir. C'est l'usage intensif de la connerie qui est pénible. Alors vous, vous êtes du genre sans modération. Hein. Toujours volontaire, pas de répit. Vous devez même assurer des permanences. Vous savez, toutes les matières premières finiront par s'épuiser. Et pour la connerie, aucun risque. Vous êtes là. Vous. Et beaucoup d'autres. Votre force, c'est le nombre. Le vrai problème dans la chasse aux cons, c'est qu'il y a trop de gibier. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y ai renoncé. Vous devriez en faire autant. Renoncer à vos fiançailles, je veux dire. Non pas parce que tout le monde fait semblant d'y croire, mais parce que vous êtes indigne de Valentine.
Alors, tous les joueurs ne sont pas malchanceux. Il en est qui gagne. Deux exemples me viennent à l'esprit, Philippe Bouvard et François Sagan. François Sagan a gagné une somme incroyable dans un casino qui lui a permis quand même d'acheter son manoir en Normandie. Bon, évidemment, il avait gagné beaucoup d'argent avec son premier livre qui était un succès, qui s'appelait « Bonjour Tristesse ». Visiblement, après, il a eu des années où il s'est passé des tas de choses absolument merveilleuses pour elle. Malheureusement, ce sont ses addictions aux drogues et à d'autres penchants qui vont la détruire. Philippe Bouvard, c'est autre chose. Philippe Bouvard est un homme qui est fameux pour sa mauvaise foi. Je me souviens avoir lu une fois une interview de lui où il disait que l'État lui prenait beaucoup d'argent, c'était à l'époque du socialisme. Le journaliste n'a pas eu l'intelligence de lui poser cette question, mais monsieur Bouvard, est-ce que vous vous rappelez de tout l'argent que vous avez laissé dans les casinos ou sur les terrains de course, de chevaux, ou dans d'autres endroits où on jouait? Car Philippe Bouvard était un joueur absolument compulsif. Il a même écrit un livre là-dessus. Nous savons tous que le sport est un jeu, bien entendu, mais les sportifs sont aussi joueurs à l'extérieur du terrain, si on peut dire. Alors un sportif qui a dépensé beaucoup d'argent avec des paris incroyables, c'est Michael Jordan, le champion de basket. Alors il pariait sur tout, visiblement, c'est ce que disaient ses collègues. Et le deuxième qui a perdu beaucoup d'argent, c'est un sportif qui est devenu très célèbre par ses films de karaté, c'est Jackie Chan. Alors d'après les gens qui le connaissaient, Jackie Chan a perdu beaucoup d'argent à cause du jeu, mais pas que. Il paraît qu'il en aurait aussi dépensé beaucoup avec les prostituées. On ne sait pas pourquoi. Ça casse un peu l'image du champion d'arts martiaux. You know I'm back like I never left. I never left. Another sprint, another step, another step, another day, another breath. Another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I never slept. I got a new attitude and a lease on life as a peace of mind. Seeking to find I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride and shit. I'm straight. I'm on my way. I'm on my way. Get up my way. I'm running late. What can I say? I heard you die twice. Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria, trudging through the mud to find the present. No ignoring us, got 20,000 deep up in the street like we some warriors. My mama told me never bow your head. Je vais vous parler maintenant de deux acteurs distants de plusieurs décennies, presque un siècle, Pamela Anderson et Chico Marx. Chico Marx était l'un des Marx Brothers, ce quatuor de comiques des années 30 qui a fait beaucoup de films avec des répliques inoubliables, des gags qui ont été repris pratiquement dans tous les films comiques du monde. Je pense par exemple à Monty Python ou à des choses comme ça. Et Pamela Anderson, bien sûr, on la connaît pour Alerte à Malibu, mais également parce que c'est une actrice qui a défrayé la chronique pour beaucoup de choses, notamment son combat contre le gavage des canards, qui nous concerne en premier chef, évidemment, en Périgord. Chico Marx avait l'habitude de jouer, Et à l'époque, il allait engager des objets au Mont de Piété, ce qui fait que son père, qui le savait, allait régulièrement rechercher sa montre et divers objets que son fils avait placés pour pouvoir jouer. C'était un joueur absolument compulsif. Pamela Anderson, elle, aime les cartes, notamment le poker. Et dans un cercle de jeu, une fois où elle a perdu visiblement 90 000 $, elle a soldé sa dette par, entre guillemets, une faveur sexuelle au directeur du cercle. On écoute Chico Marx.
Remember I used to give you lessons too. Go on, let me hear you play something. One and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and...
Finir sur une note moins triste que toutes ces ruines ou ces gens qui se sont mis en difficulté à cause des jeux d'argent, je vais parler de ceux qui gagnent, de quelques-uns qui gagnent. Ben Affleck, par exemple, Patrick Bruel, Selena Gomez, qui fait don généralement de ses gains à des associations caritatives.
Tu pourras dire n'importe quoi, puisque l'amour c'est fou. On ne paie jamais ce que l'on doit en marchant à genoux. Pourra dire n'importe quoi, puisque l'amour c'est tout. Ce qu'il reste entre toi et moi, ça nous suivra partout. Lequel de toi, lequel de moi aura l'envie de tout laisser, de tout quitter, comme si il y avait toujours mieux ailleurs, un autre monde meilleur, une autre vie où tu ne seras pas aussi. Lequel de toi, lequel de moi aura l'audace de voir en l'autre tout le contraire d'une menace? Accepter même les erreurs, revenir en arrière, ces différences qui nous font peur jusqu'à tout foutre en l'air. Tu pourras dire n'importe quoi, puisque l'amour c'est fou. On ne paie jamais ce que l'on doit en marchant à genoux. Tu pourras dire n'importe quoi, puisque l'amour c'est tout. Ce qu'il reste entre toi et moi, ça nous suivra partout. Lequel de toi, lequel de moi dira je t'aime, sans rien en échange, rien qui dérange, comme un poème. Un mot d'amour dans les orages de toute une vie à deux. Un mot qui change les sauvages en amoureux.
Cependant, ces joueurs qui gagnent ont-ils respecté toutes les règles? En 2014, Ben Affleck, par exemple, a été interdit de jouer au blackjack dans un hôtel de Las Vegas, car on soupçonnait qu'il utilisait la technique très mal vue du comptage des cartes. Ben Affleck serait alors un tricheur?
C'est étonnant, non ?